398-4616, get in the mix, stir the batter, constant chatter on CKUT 90.3 FM. Did I miss something?
Bienvenidos a CKUT 90.3 FM. C'est le lendemain de la veille avec vos animateurs Marc-André et Nelson.
Bonjour à tous, vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Mon nom est Nelson, je suis en compagnie du seul et unique Marc-André Jutras.
Represent, yeah, in the house, bon matin.
Ça représente, bon matin, ça représente le Brésil ce matin avec une...
Oi, todo bom, legal, muito gusto.
Exactement, merci.
Sepultura, personne n'aurait jamais deviné que c'est Sepultura.
Personne.
Personne
n'aurait deviné.
À part ceux qui connaissent Sepultura.
À part ceux qui connaissent cet album-là de Sepultura.
Oui, c'est le premier album avec leur nouveau chanteur qui est plus nouveau, là, mais après le départ de Max. C'est Sepultura Against. Et ça ressemble presque à du Apocalyptica parce qu'il y a du violoncelle. Et j'écoutais ça en peignant. Et je trouve, il y avait des tunes qui rentraient dedans, mais celle-là était smooth, puis était comme un petit côté tribal,
ben oui, très
envoûtant,
tribal.
Et j'ai embarqué dans ce délire-là, et je voulais vous réveiller avec ce délire-là ce matin. Pas merveilleux?
C'est vraiment, c'est magnifique, vraiment, ça m'a réveillé, ça m'a donné une envie, écoute, d'affronter la journée, cette
envie,
semaine.
Une envie de quoi?
Une envie d'affronter la journée.
Ah,
okay. Oui. Et de danser aussi.
Danse, bouge de là.
Oui, ben c'est super ça comme premier choix musical pour ouvrir la journée.
Oui. Elle a un titre, cette chanson-là. C'est mes yeux sont tellement pas bioniques. 12, 13, 14, 15, ça s'appelle « Et tabarouette ». C'est écrit en je sais pas quoi, « Millennium ». Fait qu'on va l'appeler la Trimillennium. C'est la track 15 de l'album Against. C'est celle qui ferme le disque.
Ah, t'as les yeux du lundi matin, Marc.
Exactement. Les deux yeux dans le même trou, comme on dit en québécois.
On va prendre un café, ça va t'en venir.
J'en bois pas, mais je vais prendre une grosse gorgée d'eau.
Oh, pas là, tu bois pas de café, toi?
Non, toi, t'en bois, par exemple.
OK, oui.
T'es pas fonctionnel, hein, l'après-midi, si t'as pas...
Zéro fonctionnel. En fait, je suis zéro fonctionnel non, tout court. Temps, si j'ai pas mon café. pas loin, ouais, effectivement. Donc, on a une grosse émission aujourd'hui, Marc-André. Comme à l'habitude, on va parler de musique, on va parler de livres, de films aussi, je crois bien.
Au moins un, oui.
Et encore de musique.
Encore de musique et beaucoup d'anecdotes et beaucoup de niaiseries. On va essayer de faire ça comme des professionnels ce matin.
On reste sérieux ici.
On est très sérieux.
On n'a pas le temps de niaiser.
Pas le temps de niaiser.
Commençons tout de suite avec...
J'ai eu de la visite. La visite, la très grande visite du Chili via l'Ouest canadien. Un ami qui s'appelle Gaston Gabarro. Mieux connu sur le nom, also name, a.k.a. Sensi. Ça veut dire qui est Sensi? Makissa. C'est le producteur, c'est le musicien, c'est l'architecte du son du groupe rap, un des groupes rap les plus importants des années 90 au Chili, formé de Retornados. Il est venu en visite voir sa sœur à Montréal qui habite sur le plateau.
OK.
Et j'ai eu la chance d'aller le rencontrer à l'hôtel. Après ça, on est parti sur une rumba avec sa copine aussi. Je salue tous les deux. Et on s'est promené à Montréal. C'est une journée qui ressemblait au printemps, finalement, avec du soleil. Sauf que Montréal était pas mal sale, malheureusement. C'était assez dégueu. Il y a des masses partout.
Un classique du printemps.
Hein? Exactement. C'est full de surprises. Et moi et Gaston, en plus de triper sur la musique et tout ça, et d'être amis depuis des années, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Fait que c'était bien le fun. Et j'ai réalisé qu'on a les mêmes la même maladie qui est la collection. La collection, on était sur Saint-Laurent, puis il me disait « Hey, où est-ce qu'il y a des places pour les 10? » Puis tout ça, j'ai dit « Des vinyles, des quoi? » « Non, non, CD, n'importe quoi. » Fait que là, j'ai expliqué c'était quoi les... Il est plus anglophone, fait que les thrift stores, les magasins Renaissance et compagnie, Village et Valeur, tout ça. Et on a trouvé une nouvelle boutique, on est allé en haut, et les vinyles qui étaient à vendre, les meilleurs, le gars s'y gardait, puis les moins bons, ils étaient dans le bac, puis ils restaient là. Mais moi, j'ai trouvé des stickers, j'étais très content. Il y en a un pas loin de ta tête qui est là, c'est un diable bleu. J'en ai un autre là, vert. Le monde ne peut pas le voir, mais ceux qui connaissaient le graffiti des années 2000, Third Rail, c'est un label américain de vêtements. Third Rail, c'est la troisième rail de métro à New York, celle qui a de l'électricité dedans, celle qu'il ne faut pas toucher. Et Third Rail, c'est toute la culture du graffiti. Fait que Sensi aussi, Gaston, fait de l'art visuel. Fait qu'on a beaucoup de points en commun. L'art visuel, les deux, on en fait. Collectionner des cochonneries, les deux, on en fait. Et il m'a ramené un cadeau d'un ami qu'on a en commun, un autre Chilien, qui, lui, est au Chili. C'est Victor, qui s'appelle, même nom que ton fils, mieux connu sous le nom de Grin. Et j'ai entre les mains un livre qui s'appelle tout simplement Pintura, peinture, et la calligraphie de Grin, qui est assez hallucinante. Et là, tu as une maison. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport d'une maison illuminée sur un livre de graffiti? Bien, cet artiste-là, chilien, Victor, est architecte de formation. Pendant qu'il faisait du graffiti, okay. Il a étudié l'architecture. Fait que lui, il a combiné ses deux passions, l'art visuel, créer des maquettes, tout ça. Et il s'est acheté un terrain dans un endroit secret que je vais aller visiter à un moment donné. Et il a terminé sa maison. Et il vient de publier ce livre-là qui a sorti. Il a sorti, je pense, en 2020. J'ai vu, je pensais que qu'il était plus récent que ça. Oui, 2020. Impreso en Santiago de Chile.
C'est une maison assez particulière qui a une forme ronde, arrondie, là,
oui.
Avec des fenêtres rondes.
Oui.
On dirait un peu les maisons dans Star Wars ouais. Sur la planète Tatooine de Luke Skywalker. Là.
Exact. Mais lui, c'est un visionnaire. Il fait partie d'un des crews les plus importants qui s'appelle la DVE. Je vais faire un spécial Santiago, Chili, à un moment donné sur la scène hip-hop. Elle est trop puissante. Et la DVE, c'est Dedicando Vida Escritura. Ils dédient leur vie à l'écriture. C'est un crew, ça veut dire qu'ils sont plusieurs personnes qui ont les mêmes intérêts. C'est les premiers c'est le premier la première gang sérieuse qui ont pris le graffiti au sérieux, qui se sont emparés de la ville de Santiago. Un moment donné, c'était une guerre ouverte entre la municipalité et ce crew-là de graffiti. Mais c'était pas anarchique, c'était pas, ils détruisaient pas du mobilier urbain. Je fais pas la promotion de ça, mais je suis ni contre ni pour. Mais eux, ils s'appropriaient des endroits délabrés. Il y a beaucoup de murs en Amérique latine qui sont laissés à l'abandon, des édifices laissés à l'abandon. Eux, ils voyaient quelque chose, ils se le réappropriaient. Fait qu'il est un des instigateurs de la première école, de la old school de graffiti au Chili. Et depuis des années, il me parlait qu'il allait faire un livre. Et en 2020, il l'a terminé. Et là, il en a donné deux copies à Gaston, Sensi. Et Sensi m'en a apporté une. Il ne retrouve plus la scène, mais il dit je vais donner ça que je retrouve. Et je l'ai dans les mains et c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu depuis très longtemps. Je vais te laisser le feuilleter. Qu'est-ce qui est très cool, c'est qu'à gauche, c'est tout le temps un croquis en noir et blanc. C'est un petit livre là, carré, assez gros, là, c'est comme un hardcover. Et à droite, c'est l'œuvre réalisée sur un mur. Puis là, bon, on le voit aussi avec son crew, tout ça. Mais c'est ça, c'est souvent le croquis et le résultat final. C'est hallucinant qu'est-ce que fait cet artiste-là. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous allez le trouver. Grin, ça s'écrit G-R-I-N. Pas sur Grinder, sur Grin, bien entendu.
Grin.
Et tiens, je te passe le livre. C'est
ah, hallucinant. Merci. C'est un cadeau?
Oui, je te le passe.
Ah, OK, tu me le prêtes.
Et là, autre chose, une petite anecdote, c'est ça, fait que j'ai eu du fun avec Gaston, on se rappelait des moments passés, puis qu'est-ce qui se passe dans sa vie, tout ça. On a même eu l'idée de peut-être faire une émission de radio, mais le temps manquait, mais ce n'est que partie remise. Comme je disais, ça sort à la bite sur le plateau Mont-Royal, et il va venir faire sûrement une émission en anglais ou peut-être en espagnol sur la scène musicale qu'ils ont créée au Chili en rap avec Maquisa, Tiro de Gracia, Chancho de Piedra, Pantera Negra, toute cette onde-là de rap, Tapia Arabia Jackson, tout ça. Et petite anecdote, Grin, à un moment donné, s'en va en Suisse avec un ami qui est venu aussi à Montréal, avec qui j'ai fait des murales, qui s'appelle Sick Triple Ocho. Et ils sont allés en Suisse, ils sont allés à la maison de H.R. Giger.
H.R. Giger?
Oui.
Qui est sauf erreur?
Oui.
Je peux m'essayer?
Vas-y, lance-toi. Qui,
je me sens comme ça. Ta première tune m'a mis sur un mood aventurier.
Vas-y, ouais.
C'est celui qui a dessiné la créature dans les films Alien.
Oui, monsieur.
C'est l'artiste qui, dans le fond, qui est derrière l'esthétique des films Alien, les créatures avec un gros crâne allongé, noir, luisant.
Oui.
Avec des longues queues.
Exactement. Fait que ce monsieur-là, qui a fait beaucoup d'art visuel, des pochettes d'Emerson, Lake and Palmer, je pense même Glenn Danzig, il y a une pochette, tout ça. Fait que, oui, l'art, un art très dark. Il était en exposition pendant la pandémie à Mexico City et ma blonde et ma belle-mère l'ont visité. Et il y a beaucoup de choses à connotation gore et sexuelle. Et ça a l'air que ça a bien passé.
Okay.
Dans un pays qui est très catholique quand même, comme Mexico City.
Ouais.
Et là, fin de la parenthèse, c'est que ces deux amis-là sont allés au musée de la maison musée de H.R. Giger qui est en Suisse. Vous pouvez le voir sur YouTube. Et là, c'est hallucinant. J'en parlais à quelqu'un et j'y ai montré parce que c'est indescriptible. Grin arrive. Grin parle juste espagnol. Sick parle français, anglais, espagnol. Et Giger parle un suisse-allemand assez sec, assez saccadé. Et il est assez âgé, il n'était pas encore décédé naturellement. Et Grin ouvre son cahier de croquis, lui demande à son ami de traduire, il dit « T'es une très grande influence pour moi, tu m'as inspiré tout au long de ma carrière, je veux te montrer une couple de dessins. » Et là, tu vois Giger s'émerveiller et commenter les dessins de Green, qui est très jeune à ce moment-là et qui rencontre son idole. Et c'est filmé, c'est traduit en simultané sur YouTube. C'est presque... moi, je l'ai vu il y a peut-être 2-3 ans, puis c'était comme l'affaire la plus surréelle que j'avais vue. Parce que, qu'est-ce qu'il faut dire de Green? Il y a un côté très surréaliste, très fantastique. Dans la culture latino-américaine, le fantastique, tu sais, dans « Cent ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez, il y a des choses, là, tu sais, un peu à Isabelle Allende, qui est chilienne aussi, des choses, là, le chupacabra, des, tu sais, des animaux un peu mythologiques, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est un mélange d'une espèce de paresseux avec un autre bête. Il y a tout cet univers-là qui est le paramagico, là, un peu là, comme Alejandro Jodorowsky, là, tu sais, tout cet univers-là qui est... On ne sait pas si c'est la réalité ou le rêve ou si ça existe, ça n'existe pas. Fait qu'il y a tout cet aspect-là. Fait qu'en voyant cette vidéo-là, il y a aussi cet aspect-là. C'est comme peu croyable que...
Qu'il rencontre sa grande inspiration.
Exactement.
Comme une vidéo de fondation rêve d'enfant, un peu. C'est un peu
exactement. Par année, un jeune artiste latino-américain. Fait que c'est de toute beauté. Et là, j'ai le livre entre les mains. Et je le feuillette à peine et j'en savoure. Moi, j'ai vu des pièces. Qu'est-ce qui me fait vraiment triper, c'est qu'il y a beaucoup de pièces de toute sa longue carrière. Et il y a des pièces que j'ai vues live. Il y a une pièce qui est dans un documentaire que j'ai fait, Santiago Cachaipo, qui est en train de la réaliser. Je la vois terminée. Je ne l'avais jamais vue terminée parce que c'était immense. Et j'ai un poster qui m'avait remis, qui est son écriture avec... un close-up de Salvador Dali avec ses moustaches spikées, une photo qu'il a prise, là, qui est iconique de Salvador Dali, le grand peintre surréaliste. Et là, tu as un monsieur qui ramasse du carton avec un tricycle et qu'on dirait qu'il regarde le graffiti, puis qui est comme, tu sais, d'une autre époque, là. C'est comme un clash le vieux Santiago de Chile et le nouveau Santiago, la nouvelle école et la vieille école.
Donc, lui, il fait principalement des graffitis sur murs extérieurs.
Immense.
En ville.
En ville.
Et je voyais dans le livre qu'il a aussi œuvré il a fait des œuvres dans plusieurs villes, en fait, pas seulement Santiago.
Oui, il s'est promené dans tout le Chili.
Au Brésil aussi, j'ai vu.
Au Brésil, oui, ils sont connectés avec la. Eux, ils étaient connectés avec toute la crowd de Os Remeos et tout ça. C'est des contemporains, ils ont la même âge. Fait que quand Os Remeos venait à Santiago, les Brésiliens, les deux jumeaux. Méga star du graffiti et de la murale. Quand ils vont à Santiago, ils allaient chez eux et vice-versa. Quand la gang du Chili descendait à Sao Paulo ou ailleurs, c'est la même génération. Ils ont tous à peu près entre 45 ans, plus ou moins, tout ça, et 50. Fait que c'est la vieille école DVE qu'on salue. Puis c'est ça. C'est une petite anecdote, mais tout ça, de la belle visite du printemps, c'était le fun de se promener à Montréal, puis il était vraiment impressionné par toutes les murales, mon ami Gaston. Il y a beaucoup de murales sur Saint-Laurent. Puis il dit qu'il va revenir, il est tombé en amour avec la ville, il reste juste à apprendre le français.
Ah, OK.
Ouais. Ouais.
Scoop.
Scoop.
Il va venir ici?
Non, mais il est bien, il est en Colombie, il est dans une place Canoa. Comment ça s'appelle? Il me l'a dit. J'ai Canoa dans la tête, mais c'est pas ça. Une place au BC qui est très... c'est West Coast, Easy.
Ah, en Colombie-Britannique. Ouais, okay. Ouais, j'ai compris, en Colombie.
Non, en Colombie.
Je me dis, okay, ouais. Ok, il est au Canada.
Il est okay. Au Canada, c'est un Canadien. Ouais.
Super.
Yeah.
On enchaîne avec de la musique, Marc-André? Ou
Oui, allons-y en musique, puis après ça, ça va me donner une anecdote à vous raconter.
Thank you.
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une magnifique pièce du groupe Les Breastfeeders de l'album Déjeuner sur l'herbe.
Et, déjeuner tout le monde.
C'est un album à propos qu'il faut écouter le matin. Mais en fait, on peut écouter en tout temps cet album-là parce que vraiment, ça s'écoute tellement bien.
Il rock.
On est des grands fans des Breastfeeders. On les a vus plusieurs fois en spectacle.
Et on souhaite les revoir en spectacle. Et c'était l'angle mort. Il était comment, l'angle?
Il était dead.
Dead.
Dead mort.
Dead mort. Fait que très important de faire ces angles morts. Et ça, c'était leur premier album. Et c'est du solide de A à Z. Il n'y a pas de filler. Il n'y a pas de chanson bouche-trou. La photo est magnifique. Ils sont 6 sur la pochette. Et là, si je te dis un certain... Celui-là, là, ce monsieur-là...
Celui qui nous regarde qui avec du maquillage autour des yeux. Là,
ouais, cerné un peu.
Les yeux cernés et bien maquillés.
À la Misfit.
Qui a un regard, ma foi, qui perce. Et parce que je sais c'est qui, parce que j'ai déjà vu sur scène à quelques reprises.
Oui.
C'est le personnage, vraiment l'énergumène sur scène là, qui fait de la tambourine.
Oui. Comment, c'est quoi son nom de personnage, son nom de scène?
Son nom de scène? Aucune espèce d'idée.
C'est pas Johnny Maldoro?
Ça, c'est le chanteur, non? Écoute, là, on paraît mal parce qu'on ne s'est pas préparé. Là.
Non.
Je vais ouvrir la pochette de l'album puis je vais essayer de trouver la réponse en 3 secondes.
À l'instant. Ben, son vrai nom à ce jeune homme-là qui joue de la tambourine et qui a un pseudonyme, il s'appelle Martin Dubreuil.
Martin Dubreuil, c'est son vrai nom. Et tu as raison, c'est Johnny Maldoror, son nom de scène.
Oui, c'est une bête de scène. C'est pour ça qu'il...
Vraiment.
Mais nous autres, on vient de dévoiler encore une fois, je pense la deuxième fois qu'on dévoile son identité secrète, c'est comme Clark Kent, Superman.
Oui.
Et là, Martin Dubreuil joue dans un film que j'ai vu récemment. Le film n'est pas si récent que ça, il date des années 2013. Mais disons, je suis en retard sur mon cinéma québécois et je me rattrape, je suis en rattrapage. Ça s'appelle « Chasse au Godard d'Abitibi ».«
Chasse au Godard d'Abitibi
hein? ».
C'est un titre particulier.
Exactement. Exactement.
Parle-moi-en
un film d'Éric Morin. Éric Morin, que je pensais avant de voir le documentaire, que c'était quelqu'un qu'on avait déjà côtoyé dans des cours de scénarisation, mais qui porte le même nom, mais ce n'est pas lui.
C'est pas le même.
Mais non, je me disais, aïe, il y a deux films qu'il a fait. Il y a Chasse au Godard d'Abitibi et il y a le film Gold. Ces films sont souvent, ça doit être un Abitibien ou de cette région-là, Rouyn-Noranda, je pense que c'est dans le coin de Rouyn-Noranda. Ça se passe souvent là-bas. Et là, ça part d'un fait divers qui se passe en 1968 à Rouyn-Noranda, pour être plus précis, au nord-ouest du Québec. Le passage inattendu d'un cinéaste français.
Jean-Luc Godard.
Ben, bravo, bravo.
Bing, bing, bing.
Bing, bing, bing. Une coupe de morceaux de robot, direct. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il vient faire des expériences politiques et des expériences télévisuelles. Attirer le côté révolutionnaire de Michel, qui est le personnage principal, un jeune Abitibien, et alimente le besoin d'évasion de sa copine Marie. Fait que là, les acteurs, t'as Sophie Desmarais, t'as Alexandre Gastonguay, t'as Martin Dubreuil aussi. Puis, au contact de Paul, qui est Martin Dubreuil, un Montréalais parmi l'équipe française accompagnant le réalisateur, ils s'engagent eux-mêmes dans une quête identitaire et sociale à travers ce nouvel outil technologique qu'est la vidéo.
Aha!
Le début de la vidéo et de la démocratisation de l'audiovisuel
français. Oui. Intéressant.
Fait que des frictions personnelles découleront de leurs actions et leurs rencontres en amèneront Marie à se poser l'ultime question, partir ou bien rester. Comme John Le Wolf se pose des fois, should I stay ou should I go, comme les Clash.
Donc, tu as vu ce film-là, Marc-André?
Oui.
T'as-tu aimé ça?
Oui, monsieur.
Vraiment?
Oui. C'est un film, déjà en partant, faire une reconstitution d'époque, avec un film à petit budget, chapeau.
Oui, c'est vrai.
La trame sonore, les Breastfeeders.
Oh, intéressant.
Sont en spectacle dans une cave, dans un sous-sol en Abitibi. Et au lieu de s'appeler les Breastfeeders, même si c'est vraiment, vraiment eux, ils s'appellent les Tragédiens.
OK, c'est bon. Ah, mais ça donne trop envie d'écouter.
C'est vraiment, vraiment bien. Un autre clin d'œil super intéressant, Félix B. Défossé. qui est en bûcheron de l'Abitibi, Félix B. Desfossés, qui a fait deux livres super importants sur la scène musicale, une sur le hip-hop et une sur le métal au Québec, l'évolution du métal au Québec. C'est cet auteur-là, ce gars de radio aussi, qu'on salue. Et là, comme je te disais, là, je sais qu'il ne me reste pas grand temps, mais je mange le temps, je mange les annonces.
Ah ouais, donc?
Il y a trois défis dans ce film-là. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est un film d'époque, un Québec des années 70.
Ouais.
Un film en location, en région, en Abitibi. Et un film tourné en hiver.
Oh, palais!
Oui, avec beaucoup de scènes extérieures, mm-hmm. avec des vieux skidous, avec du monde qui font des choses dans la neige, tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. La trame sonore et sa coche. Il y a une petite intrigue, mais il y a un aspect qui va te plaire à toi qui aime beaucoup les documentaires de l'ONF.
Oui.
Il y a un côté, c'est une fiction, mais il y a un côté documentaire. Le personnage qui apprend les rudiments de la vidéo rencontre des bûcherons, des mineurs de l'Abitibi et discute avec eux. Et il y a une scène dans le temps de Noël. Où est-ce que tous les hommes se ramassent à taverne et ils vont prendre un coup après leur chiffre. Et là, il y a bien des choses qui se disent. Et c'est des comédiens non professionnels qui disent des choses qui sont sorties comme qui ont sorti. Fait que c'est wow. juste ça, c'est une belle pièce d'anthologie. Je répète le titre qui est dur à dire. « Chasse au Godard d'Abitibi », un film d'Éric Morin. Je vous le conseille, mais on le déconseille aux jeunes enfants.
OK, oui, effectivement, parce que des scènes de taverne des années 70,
ouais.
ça pouvait avoir un langage assez coloré, on peut l'imaginer.
Assez cru, merci.
Assez vrai. Puis, oui. Ben oui, ça, vraiment, je suis très curieux, surtout que, ben, comme tu l'as dit, j'aime beaucoup les documentaires de l'ONF, et particulièrement ceux des années 70.
Ben, t'es servi avec ce film-là. C'est un 2-pour-1 ce matin.
On va aller en pause, oui. Marc-André, puis au retour de la pause, on a plein de bonnes choses pour vous. Restez des nôtres! Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter le seul et unique, le grand king, le vrai king du rock
oui,
and roll.
Oui, monsieur. Ah, j'aime ça que tu dis.
On peut le dire. Hein?
Ouais.
Little Richard.
Oui.
Avec, c'était Long Tall
Sally.
Long Tall Sally. Ben oui, Little Richard, grand...
Il était pas petit, il était grand.
Pionnier du rock and roll. Et ben oui, tu as un article intéressant à nous faire part Little Richard.
Ben oui. Un de mes magazines favoris de musique n'est pas de l'Angleterre, n'est pas des États-Unis, mais de la France. Ils n'ont pas inventé le rock and roll, mais la revue de rock and roll, Rock and Folk, c'est de la bombe. J'en ai souvent parlé ailleurs, j'en parle ici, je vais en parler après, pendant. C'est au service du rock and roll depuis 1966. Ils sortent une revue par mois, fait 12 par année, c'est de la bombe. Et en 2020, nous quittait Little Richard Pennyman, qui a inventé, qui a transformé, qui a pris du rhythm and blues, là, il l'a dynamité, puis c'est devenu du rock and roll.
Ouais.
Il l'a accéléré. Puis avec ses fresques extravagances, son piano, lui puis Jerry Lee Lewis là, au piano, là, c'était eux. Là, la photo de l'article commence avec Little Richard avec son orchestre, et Little Richard a son pied sur le piano, et c'est l'autre pied par terre naturellement, et il joue du piano, et il regarde la foule, et c'est une bête de scène.
Complètement.
Complètement. Puis, fait que c'est ça, il est né en 1932, décès en 2020. Très triste, mais il a laissé une longue... c'est juste des hits. C'est juste des hits. Et les photos qu'il y a dans la revue, parce que là, je vous parle aussi de la revue, est quand même... c'est super bien fait. Il n'y a presque pas de publicité. Les photos, moi, il y a des photos que j'ai jamais vues. De n'importe quel artiste, là... tu sais, les King Gizzard, là, la première fois que je les ai vus, là, c'est dans ce magazine-là. Puis là, j'étais curieux, j'ai dit, qui ces gars-là de l'Australie, puis que tout le monde parle. Eux autres, ils capotaient là-dessus. Ils capotent sur tout ce qui est vrai rock and roll. Les lettres de noblesse, ils les donnent à Little Richard. Tu sais, ils disent vite, là, ils disent, face à un micro, ils faisaient passer Howling Wolf, tu sais, qui est quand même une bête de rock, pour Maria Callas.
Ouais.
En voulant dire, là, c'est lui, là, c'était the original one, là, t'sais. Il y a une photo de lui, il est sur un trône avec une longue, longue traînée de royauté, avec un chapeau. C'est lui, le king. C'est le roi Richard. C'est lui.
Et ce qui est d'actualité, c'est qu'il y a... tout le monde sait depuis longtemps que Little Richard a influencé... moult d'artistes qui ont suivi dans le courant du début du rock and roll.
Oui.
Et un des grands artistes qui est devenu très populaire, qui a popularisé le rock and roll, c'est Elvis Presley, évidemment. Donc, que certains vont dire qu'il a peut-être même un peu copié certaines pièces. D'ailleurs, les Beatles ont aussi repris...
Oui, tout le monde a pigé dans son répertoire.
Tout le monde a pigé.
Parce qu'il a beaucoup, il a fait beaucoup de hits, il a fait beaucoup d'albums. Puis, c'est ça, il y en a tellement. Puis, tu sais, il y avait la dégaine, juste les « wap, ba, balou, ba, boum, bam, boum ». T'as la rythmique juste dans des onomatopées.
Onomatopées.
Merci. C'est très difficile à dire ce matin, comme vous pouvez le voir. Mais juste ça, c'est la rythmique est là. Tu peux pas ne pas bouger. Tu sais, ils disent « si votre corps ne s'agite pas en écoutant ce machin, c'est que vous êtes mort ».
Ouais,
c'est vrai, c'est tout dans le tapis. Là. T'as pas le temps de te reposer là, avec du Little Richard. Là.
Complètement.
T'as toutes des pièces de 2-3 minutes. Fait que c'est ça. Dans ce magazine-là, en plus, c'est ça, le titre, c'est Little Richard, le petit géant. Et sur la page couverture, t'as un autre grand qu'on va revenir, qu'on va en mettre, surtout Iggy Pop, qui a joué avec les Stooges, naturellement, et qui a une carrière solo aussi incroyable et qui est toujours vivant. Et le titre, c'est Iggy Pop, les années Bowie. Les deux ont eu une amitié très forte et se sont influencés. Ils ont enregistré de la musique ensemble. J'étais en train de lire l'article. Ben, je l'ai lu, mais je vais trouver de la musique puis je vais vous en faire jouer. Les Stooges, je connais. Iggy Pop solo un peu moins. David Bowie, je sais c'est qui, mais je ne connais pas autant sa discographie que d'autres amis qui sont des fanatiques. Mais c'est super intéressant. Les deux sont allés en Allemagne pendant que le mur de Berlin existait encore. Ils sont allés faire de la musique. Ils ont trippé Krautrock. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que ce magazine-là, à chaque fois que tu l'ouvres, il y y a tout le temps, tu sais, quand je mets des post-it, là, j'en ai comme 5. Tout est intéressant. Vraiment, là. Et là, il y a un article aussi qui est très, très drôle, là, vite. C'est que ils disent, les artistes, au début de la pandémie, là, le magazine date de 2020. Puis là, tu as tous les artistes comme Keith Richard, qui est chez eux en train de faire de la musique. Il y a des chandelles. Tu as Elton John. Tu as Brian Wilson. Tu as Neil Young. Fait que tous les artistes se lançaient. Fait que là, il y a comme un article sur l'espèce de mode pandémique de « on joue de la maison en solo acoustique ».
On fait des vidéos live ou maison, YouTube, filmées à la maison pendant la pandémie, en confinement. Triste réalité, mais qui va quand même rester dans un peu... on en parle, c'est tout frais, mais dans une couple d'années, on va revenir là-dessus, ça va être... Je pense qu'on va s'en souvenir.
On va sortir notre boîte de Kleenex et on va se mettre un autre masque.
On va dire, ah, on était-tu pas bien dans ce temps-là?
good one. Oh my God, Little Richard. Que dire de plus?
Puis, parenthèse aussi, on parlait des artistes que Little Richard a influencés, notamment Elvis. Puis, il y a un film sur Elvis qui va sortir très bientôt. Je sais pas, j'ai pas de date, là.
Oui.
Ou peut-être qu'il est déjà sorti? Non.
Non, j'ai vu ça. Je pense que c'est pour l'été, probablement.
2022.
Ouais.
Qui s'appelle simplement Elvis. Et c'est une comédie musicale, si j'ai bien compris, réalisée par Baz Luhrmann.
Who's Baz Luhrmann?
Baz Luhrmann qui a réalisé Roméo et Juliette, Le Moulin Rouge.
Ah, OK, toutes les films musicales. Là,
Donc, c'est sûr que c'est des films... c'est une signature particulière. Il faut aimer le style. Mais quand même, ça risque d'être intéressant. J'ai bien hâte de voir ça. Puis j'ai bien hâte de voir aussi la place, où j'espère qu'il y aura une place pour ses prédécesseurs qui ont influencé Elvis.
Carl Perkins aussi, hein? Tout le monde, tu sais, Blue Suede Shoes, tout le monde dit « Ah, Elvis ». Non, c'est Carl Perkins. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Elvis, il n'en a pas composé tant que ça, là, finalement. Là,
ouais.
Il s'est approprié, il a fait un succès avec, mais... faut remettre à Little Richard ce qui appartient à Little Richard. À exactement. Carl Perkins aussi.
Ben oui, c'est ça.
Mais ça fait longtemps que je voulais mettre. Il y a deux artistes que ça fait longtemps que je veux mettre, dont Little Richard et aussi Jerry Lee Lewis, qui est la base de ce qu'on écoute, ce qu'on mange pour déjeuner le matin. Nous autres, c'est du rock and roll. Ça vient tout de là. Tout de là. Effectivement. Fait que long live Little Richard. Là, j'ai du temps. Je vais faire un callback. Un callback qui est une suite. Je vais parler de bande dessinée. Le Mercenaire, deuxième partie. Il n'y a pas si longtemps, je t'en avais...
La grande BD épique italienne.
Non, monsieur. C'est pas celle-là? Je me suis fourvoyé.
Ah, c'est espagnol?
Oui, c'est espagnol. Merci de corriger le tir et de m'enfoncer le clou dans le pied un peu plus ardemment. C'est Vicente Segreles. Et là, on a le 2 de 3, le recueil du Mercenaire, la deuxième partie. Et là, j'en avais déjà parlé, c'est du fantasy hero, des musclards, des he-men avec des épées, des armures.
Chevaliers, créatures, princesses.
Donjons et dragons, tutti frutti. Et là, la pochette est hallucinante, la pochette de la deuxième partie. Tu as le héros qui est le mercenaire, qui n'a pas de nom. C'est comme le cowboy dans Clint Eastwood, là, The Man with No Name, je pense.
Oui.
Bon, ben lui, c'est le mercenaire. Là, il n'a pas de nom, c'est le mercenaire. Et là, il est toujours en mission. À chaque histoire, c'est une nouvelle mission. Et là, sur la pochette, c'est une des missions. Et je sais pas si vous vous souvenez aussi, je vous ai mentionné que c'est des toiles, pas nécessairement sur toile, mais sur papier, faites à l'huile. Et là, si on se souvient bien, faire de la peinture à l'huile, ou en tout cas faire de la coloration à l'huile, ça sèche lentement.
On l'entend, même sécher lentement.
Patient.
OK.
Je vais ralentir mon débit.
Non, tu peux aller plus vite.
Et vous allez fermer vos yeux. Non, mais c'est ça. Sérieusement, fait que c'est ça. C'est sur la coche toujours. Et la pochette est hallucinante. J'y viens. Il y a un crâne en partant au bas de l'image. il y a une femme esselée qui n'est pas une femme nécessairement parce qu'elle a des ailes comme une libellule.
Donc, c'est comme une espèce de fée?
Fée, un peu, oui, comme dans Peter Pan, la fée clochette, oui. Un peu. Elle a deux belles fleurs dans ses cheveux. Elle a un beau collier qui descend tout près de sa poitrine. Elle est légèrement vêtue et elle semble effrayée et esselée. Et là, dans le bas à gauche, il y a la créature qui s'en vient. On ne la voit pas, mais on devine ce qu'elle est, d'après toi.
Ben, c'est des grosses pattes d'araignée dégueulasses.
Velues, exact.
Ouais, une grosse tarentule géante.
Ouais.
Qui va attaquer la petite fée. Ben, pas la petite fée, en fait, la fée.
Ouais.
Et grâce, heureusement, il y a un mercenaire qui est pas loin avec son épée et son armure.
Exactement.
Hey, wow.
Hey, quel scénario, hein?
Je suis pas sûr qu'en le décrivant comme ça, ça
donne le goût, hein?
Ça donne vraiment le goût, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment bien fait, là. C'est comme dans le
visuel, c'est dans le top. Dans le top.
Ouais.
Le top.
Visuellement, là, c'est dur à battre.
Mais là, j'ai terminé de la lire hier et là, on apprend en lisant le livre, dans la dernière mouture, à la page 240, il y a un changement. Si je te le montre.
Montre-moi donc ça, Marc-André.
Tu vas voir, il n'y aura pas de différence. Regarde, tu vois, c'est le même dessin qu'avant. Tu sais, des belles couleurs, le détail. Tu sais, le personnage du mercenaire vole sur une espèce de dragon. Les châteaux, la pierre, les demoiselles en détresse, les sorcières horribles, les monstres. Et là, regarde, je virevole, tu pourras le consulter après, le diable. Et là, je suis content, il va en enfer et c'est de toute beauté, moi qui adore l'enfer. Le diable est de toute beauté. Et à la page 240, on dit qu'il y a un changement. Vois-tu une différence avec les pages d'avant et celle-là?
Non.
Soyons honnêtes, non.
Vraiment pas.
Et là, c'est que M. Vicente, qui est un Espagnol et non un Italien, a découvert la coloration par ordinateur.
Oh, OK.
Et là, je n'y vois que du feu. Je vois aucune différence. On voit un château qui ressemble un peu à c'était-tu Grayskull dans de l'univers? Ouais,
Master of the Universe.
En tout cas, moi, c'est le genre de château. Peut-être ils l'ont copié de là. C'est un château et il y a une grosse tête de mort là, en haut du château. C'est de toute beauté. Fait qu'on voit aucune différence. Ça continue d'être le look ou le style peinture à l'huile, hyper réaliste, les lèvres, les lumières, les ombres sur la coche, les monstres toujours aussi diaboliques et tout ça. Et c'est de toute beauté. L'histoire, ben, ça reste dans le fantasy, ça reste dans le fantastique. Fait que c'est ça. C'est le deuxième et j'ai très hâte à la troisième partie parce que ça va être la dernière. Mais on nous dit que la bande dessinée va avoir des suppléments d'images qui n'ont jamais été produites et une mini bande dessinée de quelques pages d'un récit jamais publié.
OK.
Fait que c'est avec impatience qu'on
donc
suit
ça, c'est
le mercenaire.
Le mercenaire, c'est nouveau, ça? C'est une nouveauté? C'est quoi?
Mais non, mais ça date des années 80.
Ah, c'est ça. Donc
mais
c'est comme une réédition.
Mais c'est une réédition de luxe,
gros volume.
Gros volume, trois épisodes. C'est comme si tu avais trois Astérix ou trois Tintins dans le même album.
OK, je comprends.
Fait que tu as trois épisodes que tu lis back-to-back qui ne suivent pas vraiment. Mais tu sais, t'es dedans, là. T'as pas besoin de... Fait que c'est de toute beauté. Tu sais, je te le prête, il est pesant. À l'os.
C'est lourd. Mais c'est très beau. Vraiment, pour l'art visuel, vraiment, c'est comme écouter un photoroman quasiment, tellement c'est beau.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça ressemble à ça.
Les illustrations sont
ouais.
Tellement bien réalistes. C'est extraordinaire.
Fait que quand il va sortir le troisième, attendez-vous que j'en parle, mais pas aussi longtemps. Il faut se calmer. Il faut que je tourne la page, comme on dit, de cette histoire de fantasy qui est paru sur, je pense que c'est sur les humanoïdes associés. Ben, c'est sur Glénat, mais je pense que la première fois, c'était les humanoïdes associés, ou peut-être pas, mais c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. C'est un livre d'art à consulter et à se procurer si vous en avez les moyens. Est-ce qu'on va tout de suite en musique? Do we
ben
have
oui,
the
il
time?
Nous reste un petit 10 minutes à peine. Donc, on peut aller en musique, Marc-André. Je vais
nous découvrir quelque chose.
On va voyager un petit peu. Allons
dans le sud.
Dans le sud, vers Cuba.
Cuba Libre. Mojito.
De Cuba lo que impuso y que se pega, y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con país segundo puso entre tus secas.
Ahora la distancia queda.
Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones viejas y nuevas, de corazón, sangre y pulmón.
Ay, Alejo, donde el sol calienta más, olvidé mi corazón, un arroyo y un palmar. Dejé mi patria querida hace más de un año ya.
Querida, hablar de ella ni lo intentes. Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone. Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó con Pai Segundo. Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente, chico. Y te lo explico, cubano 100% prototipo.
Me arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soña. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra.
Salió por de buena vista, Miramar a la mar. La victoria, Habana Vieja, barrio nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, vedado, paseo del Prado, tus leones lado a lado. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú, mi Cuba, como tú, ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona. Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo, recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Color de la campiña cuando llueve, el morro, el cañonazo de las nueve. El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás.
Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar.
J'ai deux premiers albums, celui-là qui est le premier. Le deuxième, c'est A Los Emigrantes. Puis là, après ça, ils en ont sorti deux ou trois autres. Fait que c'est un band qui marche quand même, puis qui font des collaborations, que ce soit avec Sergent Garcia puis d'autres, d'autres artistes français de France.
Puis, Ordon, tu me disais que le nom du groupe, Orichas, veut une signification?
Ben, je pense que ça fait partie du panthéon du, de la Santeria. La Santeria qui est comme la, le penchant voodoo de la religion afro-cubaine. Fait qu'un orisha, c'est les dieux, comme les... en Haïti, c'est Papa Legba, Baron Samedi, tout ça. Ben, eux, ça serait ça.
Ah orisha, oui?
Ouais, si je me souviens bien. Là.
OK, c'est intéressant.
Allez pratiquer. On va demander à nos amis cubains si ce que signifie orisha dans le Santeria, mais c'est ce que je crois.
OK.
Yes.
Super.
Si. Alors, cubano, saludamos a todos los cubanos.
Bien sûr.
Con un mojito, por favor.
Avec une bonne... un bon, une torta, c'est ça? Le sandwich cubain?
Ah, je sais même pas.
Non? Yeah. Là, je dis n'importe quoi. Okay. J'arrête de parler.
Hey, du hip-hop. Qui fait du hip-hop à cette heure?
Écoute, c'est drôle que t'en parles.
t'en parle.
Récemment, un artiste qu'on aime beaucoup, en fait, un groupe rock qu'on aime beaucoup, s'est mis à faire du hip-hop.
Mais qui ça peut être?
Ça s'appelle King Gizzard and the Lizard Wizard MC. Non, c'est pas vrai.
MC 5.
Donc, King Gizzard, qui a sorti un album tout récemment, je crois la semaine... Ben, en fait, il y a plusieurs jours,
ouais.
Au moment où on nous écoute.
Oui.
Qui est un album assez varié, donc classique à fidèle à eux-mêmes, King Gizzard, qui font du rock progressif, du rock plus stoner, trash, metal par moment. Mais là, ils nous ont sorti quelques pièces de rap en plein milieu de l'album.
On aurait pu faire un pool de ça comme gagé, parce qu'on a déjà parlé à un spectacle. Ils ont touché à tout. On avait dit sauf le hip-hop, le western, puis une autre chose. Puis l'électro, il en avait touché, d'électronique, du chose.
Ouais.
Fait qu'il reste juste le western, je pense, à ma connaissance, parce que c'est du jazz qu'ils ont déjà fait. Ah, du reggae peut-être. J'ai pas entendu rien de
c'est
reggae,
vrai.
Me semble.
Non, ils n'ont pas touché.
Mais ça s'en vient, on le lance à l'univers.
C'est
l'année prochaine, le nouvel album, c'est King Gizzard Live in Jamaica.
Si les membres de King Gizzard nous écoutent en
ouais.
direct d'Australie.
Oui.
S'il vous plaît, faites du reggae. On attend juste ça. Maintenant que vous avez touché au rap, mais ils le font très bien. C'est
ouais,
vraiment, vraiment, c'est très bon. Puis ça reste du King Gizzard dans le sens que on n'a pas l'impression qu'il essaie de copier ou que, tu sais, ça sonne pas vrai. Ça sonne très vrai.
C'est naturel. Ça
c'est vraiment naturel. Ouais. Ça, ouais. Ça reste que leur voix à eux.
Ouais.
Ils ont un bon flow qui nous rappelle un peu celui de Beck dans certaines pièces rap aussi. Là.
Ben c'est ça que tu me disais. Ouais. Tu trouvais que c'est ça. Ben moi, la première chose que j'ai vue, c'était Beastie Boys. Toi, tu as nommé Beck. Puis c'est vrai, c'est comme... Il y a un petit côté dans
lo-fi.
Le micro, low-fi, le micro un peu avec de la distorsion ou dans un haut-parleur, un porte-voix. Là, fait que ça... Ouais, ils le font très bien. Ils maîtrisent tout ce qui touche, finalement. On peut aimer ou ne pas aimer, mais je veux dire, on s'en parlait en déjeunant, c'est que, admettons, dans le thrash metal, quand ils ont sorti Infest the Ratness, je pense qu'ils ont écouté du Metallica, puis ils ont dit, OK, Metallica, avant, ça sonnait pas pire, ça sonnait bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que Metallica ferait aujourd'hui? T'sais, pour que ça sonne vraiment, pour que ça torche, du gros trash metal comme Metallica devrait en faire, mais qu'ils ont oublié. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont rempli ça dans le tapis, des riffs de la mort, des changements compliqués. Ça ressemble presque à du mastodonte. Des solos que Slayer ne renierait pas dans le tapis. La voix du chanteur audible, un peu guttural, tu sais, qui sort de la gorge. Presque du Creator. Fait que ils savent, ils reprennent tout ce qui est, les éléments qui est bon là, dans ce qu'ils aiment comme musique, puis ils mettent une coche supérieure, puis ça fait du King Gizzard.
Ça s'écoute, c'est vraiment excellent, encore une fois. Là. Ils ouvrent, l'album commence avec une pièce de 18 minutes, ni plus ni moins.
On va vous la faire jouer, on vous le promet. Vous ne nous entendrez pas pendant 18 minutes, ça va être
on
des
risque
vacances.
De parler peut-être une fois de temps en temps dans la chanson, c'est tellement long. Mais la pièce, elle est bonne. C'est pas juste 18 minutes de musique ambiante ou de bruit ou d'intro qui finit plus. Non, ça commence, ça chante déjà, il y a déjà des riffs, c'est vraiment magistral. L'album s'appelle Omnium Gatherum, pense.
Ça, je peux pas t'aider. J'ai déjà dit King Gizzard and the Lizard Wizard le matin. Là.
Exactement.
C'est du sport.
C'est bon pour la prononciation.
Ouais.
Donc, surveillez, on écoute ça. On écoute toujours du King Gizzard.
Ouais.
Mais là, un album tout récent qui vaut le détour.
Mais on est gentil, on vous en fait pas trop jouer. On ne veut pas vous l'imposer, mais on va vous en faire jouer prochainement. Ils vont être en spectacle. Gardez-nous des billets, je ne les ai pas encore achetés, au mois d'octobre ou au mois de septembre 2022. Et là, on a eu des petits problèmes techniques tout à l'heure. Orisha, les dieux n'étaient pas avec nous. On n'a pas fait brûler assez de bougies. On n'a pas fait brûler un Monte Cristo numéro 5. Dans le rock and folk, deux petites affaires vite. Il y a une exposition super cool d'un article qui s'appelle Toc Toc. Je sais pas si c'est un peu bande dessinée, un peu pop art. Il est à la galerie Sakura, à cette époque-là. Là, on parle des années 2020. Il y a déjà 2 ans, mais j'aimais beaucoup. Il a pris 25 partitions de musique. Puis ça a été revisité par le street artist Toc Toc, un hommage à AC/DC, Bob Dylan, David Bowie et même Elvis. Et là, tu vois la partition, fait que tu serais capable quand même de lire la note. Et là, il a dessiné un Elvis au gros menton. Fait que j'ai trouvé ça sympathique comme exercice, comme corpus pour une exposition. Moi, j'aime bien ça dessiner sur des cartes. Fait que sur une partition, je trouvais ça très bien. Et là, dans le rock and folk toujours, il y a des petites anecdotes, c'est comme des flashs de nouvelles. Et là, on dit Whitesnake. Je ne sais pas si vous vous rappelez du groupe glam rock Whitesnake des années 80 et tout ça. Ben, David Coverdale a improvisé une chanson acoustique sur la page Facebook du groupe. Ça s'appelle Coronavirus Blues. Heureusement, courte de 40 secondes.
Heureusement.
Merci David Coverdale de juste faire une petite toune.
Malheureusement, la vraie Coven est encore là.
Exactement.
Mais sa pièce, elle est là aussi pour toujours.
Pour toujours. 40 secondes, j'aime mieux une toune hardcore qui rentre dans le tapis qu'un petit blues.
Hey Marc-André, merci beaucoup.
Merci à toi, Nelson, de ces découvertes-là. On se voit sous un ciel variable, sous peu.
Sous peu. Restez des nôtres, restez à l'antenne. Bonne journée. Bye bye.
We are now tuned into the universe of Latin Music Mondays. Welcome back once again to our program. We are very glad that you are out there hearing us on the dial at 90.3 and also by the World Wide Web, which implies that we are now being heard in the whole world and even more. Up to the far Milky Way, right? This is DJ The Most High, and today we do have a